terre pour s'en aller. Ils n'ont pas bougé, bougé, bougé. Quand tu t'es frotté, 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 ils n'ont pas bougé. Quand tu t'es frotté, et tu t'es frotté, 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 y a peut-être un truc qui te grattait, frotté, frotté.
Midi 10 sur la Calaison. Alors on essaiera de savoir ce qui se passe du côté de nos camarades de RFI qui semblent être en grève depuis hier. On n'a pas trouvé d'infos. On leur souhaite en tout cas bien du courage et tout notre soutien. Midi 10, donc c'est le plat de résistance jusqu'à 13h. On parle aujourd'hui du festival Cinémarche dédié au cinéma queer et féministe et qui démarre ce dimanche à Bordeaux. Et puis on donnera la parole à un collectif de personnes séropositives alors que l'asso qui les accompagne, le GAPS, est menacé de fermeture par la suppression des financements de l'État. À 13h, restez avec nous, le guide du Bordeaux colonial vous offrira un moment de littérature émancipatrice autour de l'ouvrage L'île aux enfants d'Ariane Bois qui raconte l'histoire des enfants de la Creuse, 2150 enfants réunionnés, enlevés et déportés des années 1960 à 1980. On commence avec quelques informations. Une nouvelle mobilisation d'abord à l'université Bordeaux-Montaigne contre les violences sexistes et sexuelles. Hier, une assemblée générale réunissant plus de 200 étudiantes et étudiants a voté un blocus partiel de la fac jusqu'à vendredi pour protester contre l'absence de politique sérieuse de prévention de la part de l'université. Les étudiants et étudiantes demandent la mise en place d'une réelle cellule d'écoute des victimes, une cellule indépendante de la présidence de l'université et qui soit composé en partie d'étudiants et étudiantes. Une nouvelle assemblée générale aura lieu ce vendredi à 12h à l'université Bordeaux-Montaigne. Et je précise que cette mobilisation, elle a lieu alors que des élections aux conseils centraux ont lieu toute la semaine à l'université. Au même moment, le syndicat étudiant UNEF ainsi que les associations d'étudiants étrangers à Bordeaux lancent une pétition pour un accès égalitaire au logement. Aujourd'hui, je les cite, aujourd'hui le CROUS Bordeaux-Aquitaine est un des seuls CROUS de France interdisant l'accès à ces logements aux étudiants et étudiantes étrangers hors zone Erasmus en licence. Selon ce collectif, cette mesure discriminatoire va à l'encontre des valeurs d'égalité et d'universalité de l'enseignement supérieur français et ils demandent donc son abrogation. Quand des travailleurs allemands se battent et gagnent la semaine de 35 heures, c'est ce qui vient de se passer chez nos voisins allemands, souvent cités en exemple pour leur efficacité économique, et bien là c'est une efficacité de lutte, on pourrait dire. Après 5 mois de mobilisation, des journées de grève très suivies, les conducteurs de locomotives obtiennent les 35 heures, une hausse de salaire de 420 euros mensuels et le versement d'une prime spécifique de compensation de l'inflation de 2850 euros. Et puis hier, la justice britannique devait se prononcer sur la demande d'extradition de Julian Assange, journaliste australien, fondateur de Wikileaks. Les États-Unis réclament Assange pour le juger. Les magistrats britanniques ont décidé de donner 3 semaines au gouvernement américain pour apporter les éléments garantissant notamment que sa nationalité australienne ne lui serait pas préjudiciable lors d'un éventuel procès aux États-Unis, que la peine de mort ne serait pas demandée à son encontre et qu'il pourrait bénéficier de la protection du premier amendement de la Constitution américaine, amendement qui protège la liberté d'expression et qu'il pourrait en bénéficier au même titre que n'importe quel citoyen américain. Voilà, je vous renvoie vers notre émission du plat de résistance qu'on avait consacré à Julian Assange. Ça devait être autour du 15 février dernier. Midi 15 sur la Clé des Ondes. Bonjour Myriam.
Bonjour Baptiste.
Ce dimanche 31 mars débutera la 19e édition du festival Cinémarche.
Oui, ce festival créé en 2000 rend hommage au cinéma queer et féministe. Il se déroulera à Bordeaux et dans d'autres cinémas de Gironde jusqu'au 8 avril. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Esther, la coordinatrice de l'association Cinémarche. Bonjour Esther.
Bonjour.
Alors, pour commencer, Esther, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que c'est que Cinémarche pour les gens qui ne connaîtraient peut-être pas ?
Alors, Cinémarche est une association qui existe depuis plus de 20 ans, en effet, pour travailler les questions LGBT, queer, féministes à l'écran. Mmh. Du coup, on a monté un festival qui aujourd'hui va sur sa 19e édition. Il y a eu une petite interruption de 6 ans qui a laissé place au Cinémarche Club qui se poursuit malgré tout au long de l'année pour pouvoir accompagner une sélection de films qui nous interpellent ou qui nous émeut.
Oui, et justement, ces films, c'est uniquement des films indépendants qui sont sélectionnés ?
Tout à fait. Des films indépendants, fiction, documentaire, films expérimentaux,
courts-métrages,
longs docs. Tant que ça nous raconte quelque chose sur le monde, ça invente un langage. On travaille aussi sur l'histoire, des représentations des LGBT, des femmes à l'écran.
Oui, du coup, sur l'édition de cette année, je voulais revenir sur sa position géographique. Déjà, l'année dernière, vous aviez diffusé des films en Dordogne et en Gironde. Cette année, ce sera en Gironde. Pourquoi c'est important pour vous de diffuser hors de Bordeaux également ?
Alors, c'est né d'un partenariat avec l'Association des cinémas de proximité de Gironde, qui a un dispositif très intéressant d'accompagnement des jeunes, des médiateurs cinéma, dispositif qui s'appelle Caméo, et qui permet du coup à des jeunes de découvrir une sélection de films du festival et de les accompagner, les présenter eux-mêmes en salle.
D'accord, donc tu as peut-être déjà un petit peu répondu à la question, mais peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers des luttes LGBTQ+, ce festival, il s'adresse à quel type de public ?
Alors, à tout le monde, les personnes concernées, alliées et toute personne qui a envie de réfléchir sur les questions de sexualité et de genre, avec des films de fiction, des films documentaires qui permettent de travailler différents axes de ces thématiques qui sont très très riches.
D'accord. Donc pour l'édition de cette année, je voulais qu'on parle un petit peu de l'affiche. Donc c'est une scène du film On the Go qui sera diffusée pendant le festival. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi de mettre peut-être ce film-là en avant et nous parler un petit peu de cette œuvre-là ?
Bon, alors le choix de l'affiche est toujours compliqué. On a eu travaillé avec des graphistes, avec des photographes. On a depuis 2 ans, on a envie de revenir à de la photo, puisque le cinéma c'est avant tout de la photo, la photo en mouvement certes. Et ce film-là, en tout cas cette photo-là, plus que ce film, finalement, nous a donné envie d'illustrer le côté road movie, le côté making-of du cinéma, puisqu'on voit une caméra, des rails. Et puis, il y a un côté un peu foufou, incarné par l'actrice principale qui forme avec son acolyte gay une espèce de Thelma et Louise sur les routes d'Andalousie. Voilà. Donc c'est plus pour l'image que ça nous a donné envie de choisir cette photo. Oui. Après, Timon the Go est une petite pépite qui nous vient d'Espagne et qui a un espèce de road movie un peu complètement décalé, un peu à l'image de certains aspects de la programmation où on aime aller aussi sur des formes un peu hybrides.
Oui.
Le film a été tourné en 16 mm et c'est un format qui nous intéresse. D'ailleurs, on fait un focus Barbara Hammer, mais peut-être qu'on peut en parler dans un deuxième temps.
Oui, effectivement, c'est prévu. Mais alors juste pour revenir sur la particularité de cette édition, donc vous disiez notamment dans votre édito que les mots d'ordre de cette année, ce serait l'amour et l'activisme, peut-être à l'image justement de cette affiche-là. Est-ce que toi, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le message que vous souhaitez faire passer à travers les films qui ont été sélectionnés cette année ? Est-ce que c'est une édition qui est encore plus politique que les autres ?
Alors, c'est vraiment les films qui nous inspirent les thématiques. On ne se dit pas, tiens, on va travailler sur telle thématique et on va chercher des films, puisque on essaye de faire le pont entre des films de l'actualité et quelques pas de côté pour travailler, on va dire, dans le patrimoine. Mais c'est vraiment le film de Léolo Victor Pujebé qui sera présent avec son compagnon Mathieu Morel. Le film s'appelle « Le corps du délit », qui nous a inspiré cette thématique. Tant il résonne aussi avec, avec un certain nombre de films sur des jeunesses un peu désillusionnées.
Ouais, tu peux nous en dire peut-être un peu plus.
Mais qui résistent. Voilà, il y a cette idée de résistance qui est forte quand même dans les portraits de la jeunesse d'aujourd'hui.
Et oui, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce film, Le corps du délit.
Donc, c'est un essai qui parle à la fois qui dénonce des violences policières, qui s'inspire de textes de Maïnoff, Foucault ou Jean Genet, pour mettre en scène un jeune gay qui déroule toute une philosophie alors qu'il est emprisonné pour avoir lancé des projectiles contre la police, voilà, par défense. Et ce film, il articule, il est à la frontière entre documentaire et fiction, et en même temps avec beaucoup de clins d'œil au cinéma de la Nouvelle Vague. Et ça nous a fait vraiment un plaisir fou de découvrir enfin un film gay politique de gauche, voilà, comme on n'en voit pas beaucoup au cinéma.
Ouais, bah ça donne envie d'aller le voir en tout cas. Je voulais aussi faire un petit focus sur un spectacle vivant. Je crois que c'est une des premières fois que vous intégrez du théâtre pendant le festival. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui va se passer au théâtre de la Lucarne pour le seul en scène de Naël Daria? Donc pour un spectacle qui aura lieu ce dimanche soir et ce lundi soir. C'est aussi un spectacle qui est très politique, non ?
Oui, alors on fait un partenariat avec les Avant-Postes, qui est une nouvelle structure qui gère le théâtre de la Lucarne à Bordeaux, avec qui on a déjà collaboré sur le Ciné-Club. Mmh. Et comme on est dans un théâtre, tout naturellement, on a eu envie de faire ce pont-là, sachant qu'on a rencontré Naël Daria sur plusieurs courts-métrages auxquels elle a collaboré. Donc elle fait elle-même, elle incarne le pont entre le documentaire et la mise en scène, puisqu'elle a joué dans un certain nombre de films queer, et par son spectacle, qui est un spectacle comique, enfin très cynique, elle interroge la place des actrices trans dans le cinéma, en mettant en scène un espèce de faux casting qui est largement inspiré de son vécu en tant qu'actrice.
D'accord. Alors justement, tu parlais de la place des trans dans ces luttes-là. Donc tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs documentaires, des docu-fictions aussi, et plusieurs films qui reviennent sur des luttes queer historiques. Et donc par exemple Streaming Queens et le FHR qui reviennent sur le rôle qu'ont joué les personnes transgenres dans les luttes LGBTQ+. Alors déjà, est-ce que je voulais te demander si c'était difficile de trouver des archives sur ces luttes-là précisément? Et pourquoi, selon toi, c'est important de rappeler que ces luttes, elles ont eu lieu et elles ont bien été documentées?
Oui, on a toujours travaillé sur ces archives. L'an dernier aussi, on collabore avec le collectif Archives LGBTQ+, de Bordeaux. Mm-hmm. Cette année, on aura aussi Isabelle Santis de Queer Code, une association qui s'intéresse aux amours lesbiennes plutôt pendant la guerre et l'après-guerre, et qui présentera d'ailleurs le film Nelly et Nadine.
Ouais.
Un portrait assez exceptionnel d'un couple de femmes qui se sont rencontrées dans un camp de concentration et qui ont vécu une grande histoire d'amour. Du côté de la bibliothèque, on propose deux documentaires qui se répondent. En effet, Screaming Queens, qui est un film totalement rare et quasi oublié, qui relate une histoire qui est très peu visible d'ailleurs dans l'histoire de la communauté LGBT qui, vous le savez, hein, tout le monde sait que la première pierre a été lancée à Stonewall en 1969. Mm-hmm. C'est un peu la date mémorielle qui a initié les premières Gay Pride. Mm-hmm. Sauf que une journaliste trans, Susan Stryker, a découvert une autre histoire de révolte qui s'est passée 3 ans avant à l'initiative de militantes trans. Voilà. À San Francisco. Donc, c'est mené comme une enquête, comme un travail de recherche, un travail de mémoire. Et à ce film, on répond par un autre film, plus français, ouais. Qui est la première incursion de folles et de gays et lesbiennes dans une manif du 1er mai en France, en 1971, par le Front homosexuel d'Action révolutionnaire, qui, heureusement, a été filmé à l'époque par une pionnière hein, du vidéotract et du militantisme féminisme, qui est Carole Roussopoulos, hein, à qui on doit pas mal de films sur l'histoire des luttes des femmes, mm-hmm. Qui était là au moment de cette première assemblée générale à l'École des Beaux-Arts à Paris. Voilà, donc c'est des documents rares et aussi précieux.
Oui, et justement, une personne qui a aussi mené ce travail-là, c'est Barbara Hammer, donc tu en parlais tout à l'heure, artiste et activiste. Vous allez diffuser 3 films de Barbara Hammer. Donc pour les citer, il y a Love Other, Nitrate Kisses et History Lessons. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui était Barbara Hammer et pourquoi c'était important de lui rendre hommage cette année ?
Alors Barbara Hammer, qui est décédée il y a peu de temps, en 2019, mm-hmm. A traversé 50 ans d'histoire LGBT aux États-Unis. Elle était féministe, lesbienne, artiste et une pionnière du cinéma expérimental. Donc elle constitue vraiment une référence pour les amateurs. Et elle a autant travaillé la forme de ses films, à gratter des pellicules, à faire du montage, du collage, plutôt sur la forme, autant qu'elle a travaillé sur le fond, à documenter nos luttes, à interroger l'histoire des représentations des gays et des lesbiennes au cinéma et dans la culture populaire par le biais de montage vidéo. Voilà, donc c'est une artiste que nous a fait découvrir il y a plus de 20 ans Bertrand Grimaud de l'association Monokini, qui est un passionné de films expérimentaux, qui avait à l'époque d'ailleurs invité Barbara Hammer à Bordeaux. Il y a eu une séance dans un lieu alternatif dans le quartier Saint-Pierre. Elle n'est jamais revenue à Bordeaux, mais elle a laissé... cette trace-là, cette envie de lui rendre hommage avec Monokini et le CAPC aussi qui est partenaire pour présenter 3 films assez rares, dont un qui sera projeté dans son format original, c'est-à-dire en 16 mm.
D'accord, c'est lequel ?
Ça se passera le 2 avril aux avant-postes à la Lucarne, avec une soirée conférence de films et de films rares.
D'accord, merci. Alors, en plus du festival, tu le disais un petit peu au début, l'association Cinémarge organise aussi le Cinémarge Club avec différentes projections accompagnées de rencontres tout au fil de l'année. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment est-ce que vous est venue l'idée de créer ce Ciné-Club qui est né, il me semble, après le festival ?
Alors en fait, il est venu remplacer le festival quand on a eu un moment d'épuisement et de départ d'un certain nombre de l'équipe.
En 2015, c'est ça ?
Comment ?
En 2015.
Oui, en 2015, voilà. Mmh. Et on avait une frustration en organisant le festival qui était de ne pas pouvoir répondre aux multiples sollicitations et aux envies tout au long de l'année de travailler sur les films de l'actualité. Donc ce Ciné-Club, il a cette vocation-là. D'accueillir des équipes ou de travailler l'angle thématique des films de l'actu. On avance ensemble en collaboration avec Utopia pour pouvoir faire des coups de projecteur. Parfois on permet que des films passent en séance exclusive à Bordeaux, sinon ils ne passeraient pas. Donc on fait ce travail-là aussi d'exclusivité.
D'accord. Et d'ailleurs, il y a certains films qu'on retrouve au festival et qui ont été déjà diffusés durant l'année. Et je me demandais, concernant le festival, est-ce qu'à terme, il y aurait la volonté de votre part d'en faire un festival au sens classique, peut-être, avec l'organisation d'une compétition et de remise de prix, par exemple?
Alors c'est vrai que c'est un peu un festival indépendant, fauché, hein, pour être honnête, qui est porté par des bénévoles. Je lance un appel, hein, on est toujours en recherche de mécènes, de soutien financier qui nous permettrait d'avoir des dotations. Et à ce moment-là, oui, en effet, pourquoi pas une compétition. Après, j'aime bien l'idée que ce soit non compétitif parce que ça nous obligerait à être dans un espèce de panorama des films de l'actualité, alors que c'est l'inverse de notre démarche, qui est plutôt une sélection. Voilà, on fait un travail de sélection avec des entrées thématiques, on tente de faire du lien entre les films, d'inviter autant des artistes que des équipes de films. Donc cette richesse-là, à une petite échelle, hein, puisque c'est 16 longs-métrages, une vingtaine de courts-métrages, pourrait pas exister dans un festival compétitif. Enfin, ce serait plus compliqué où il faudrait qu'Utopia nous laisse 15 jours pour dérouler une programmation plus conséquente.
D'accord, bah merci Esther, le message est passé en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de répondre à la clé des ondes. Donc nous donnons rendez-vous à nos auditeurices à la Brasserie du Port. Tu as peut-être quelque chose à rajouter? Non. Nous donnons rendez-vous à nos auditeurices à la Brasserie du Port pour la soirée d'ouverture qui est organisée cette année par le collectif Patatrache Collective ce dimanche à 21h. La plupart des films du festival seront projetés à l'Utopia à Bordeaux du 31 mars au 8 avril. Et pour le reste, je vous invite à regarder la programmation sur le site festival.cinémarge avec un S à la fin.fr. Et je vous remercie pour votre écoute.
Merci beaucoup Myriam, merci beaucoup Esther. On va terminer pour se mettre dans le bain un petit peu sonore du festival. On va terminer en écoutant la bande-annonce du festival Cinémarge qu'on peut déjà voir sur les écrans du cinéma Utopia.
Il faut faire des films politiques. Il faut faire politiquement des films.
To be someone else.
C'est donc en tant que femme que vous êtes mariée avec une femme.
Festival Cinémarge qui ouvrira donc ce dimanche 31 mars avec un film russe, si je le retrouve dans le programme. Ça s'appelle Queendom et ça parle d'un artiste non-binaire de 21 ans, Jenna Marvin, qui entend bousculer la société russe la société russe, pardon, prise au piège par Poutine en déambulant dans les rues de Moscou dans des costumes mutants, croisement entre l'esthétique de Leigh Bowery et celle de Comme des garçons, entre la mode et le trash art, le happening brûlant et l'exhibition publique. Sa pratique artistique brouille les frontières entre identité, art et activisme. Voilà, le film parle de cette activiste qui fait écho avec la situation en Russie et la place des personnes queer dans ce pays. Voilà, donc on vous invite à aller voir cette projection du film Queendom dimanche soir au cinéma Utopia dans le cadre du festival Cinémarge. Midi 35 sur la clé des ondes, c'est toujours le plat de résistance. On s'intéresse maintenant au GAPS, le groupe d'aide psychologique et sociale qui accompagne des personnes séropositives à Bordeaux depuis 1988. Plus de 400 personnes sont accompagnées chaque année grâce aux 10 salariés de l'association. Or, son principal financeur, l'Agence régionale de santé, l'ARS, a décidé de supprimer purement et simplement sa subvention, ce qui pourrait entraîner la fermeture du GAPS. L'ARS s'est justifiée auprès de Rue 89 Bordeaux par un projet, celui de proposer une offre de services inclusive et équitable pour tous, dont les patients porteurs de VIH, et de pérenniser les financements en renforçant les dispositifs de droit commun du soin et du médico-social, je les cite. En gros, ça veut dire ne pas prendre en compte la spécificité du VIH et refuser qu'une offre de soins spécifique soit proposée aux personnes séropositives. Alors à la clé des ondes, on a diffusé depuis trois émissions réalisées par des personnes séropositives accompagnées par le GAPS. Cette émission, elle s'appelle Les Indétectables et vous pouvez la retrouver, en retrouver ces trois épisodes sur notre site laclédesondes.fr en podcast. On vous propose maintenant d'écouter ou de réécouter un extrait de leur dernière émission qui a été diffusée mercredi dernier sur notre antenne. Il s'agit d'une discussion autour du GAPS et de ce qu'il représente pour ces personnes bénéficiaires qu'on écoute tout de suite.
Là, on a le plaisir d'échanger une discussion. On est 6 autour de la table et l'idée, c'est de réagir par rapport aux baisses de financement et globalement aux attaques contre la santé pour tous et en particulier pour les personnes séropositives, étrangères ou pauvres ou victimes de violences qui n'ont pas d'autres soutiens par ailleurs. Et l'idée, c'est de pouvoir partager les expériences pour pouvoir réagir par rapport à cette situation, partager vos regards sur ça, dire ce que vous en pensez, si vous voulez partager à nos auditeurs et à nos auditrices vos réactions.
Bonjour, moi je suis Valérie, j'ai participé aux deux émissions, aux deux premières émissions de radio qu'on a fait avec le GAPS et Juliette en tête.
GAPS, c'est groupe d'aide psychologique et sociale et coordination des parcours de santé.
Un petit coup de gueule ou une révolte intérieure parce que le GAPS, l'ARS supprime les crédits pour le GAPS et nous, on est dans une famille ici, les séropos, on est dans une famille ici et on a envie que ça continue. On fait du sport, on fait des ateliers d'écriture, on fait du yoga, on fait des pique-niques, on fait des balades, on fait plein de trucs ensemble et quand on est seul, et quand on est isolé, et quand on est malade, et quand on est rejeté, et quand on est discriminé, ça fait du bien d'être ensemble.
C'est vrai, on est en tout début d'année, donc je pensais passer une bonne année, et voilà qu'on apprend que le GAPS ne va plus avoir de subvention. Alors c'est vrai que moi je suis atteint du VIH depuis maintenant 10 ans. Et on va dire que le GAPS, ça a été un peu ma famille. Et c'est vrai que j'ai trouvé un cocon parce que quand j'ai appris ma maladie, c'est un peu mon monde qui s'est écroulé. J'ai perdu mon emploi, j'avais perdu 30 kilos. Je suis parti en dépression, j'ai connu l'isolement social, suite à la maladie. Donc c'est quand même grâce au GAPS que aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Grâce au GAPS, J'avais des bons repas parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, ben d'avoir un atelier même diététique, ça permet d'avoir des recettes pas chères, des bons conseils. C'est fait dans une bonne ambiance. J'ai pu pratiquer des activités physiques. Il y avait de la marche en forêt, il y a du yoga, de l'aquagym, il y avait du vélo, du cardio, enfin plein de choses. Et puis avec chaque fois un prof APA donc, qui s'adapte en fonction des difficultés de chacun, puisque le GAPS a toujours voulu être une association ouverte avec la libre participation des adhérents. Donc ça a toujours été ouvert et effectivement, moi j'ai pris connaissance de cette association avec l'hôpital de jour à Saint-André. Donc c'est vrai que c'est comme ça que j'ai découvert, donc dès que j'ai appris ma maladie, enfin le GAPS a été là. C'est vrai que personnellement, je n'ai pas profité de tous les services du GAPS. Je sais qu'il y a psychologue, qu'il y a quelqu'un chargé d'insertion, assistant social, tout. Et je pense que c'était vraiment nécessaire. Au moins, quand on apprend cette pathologie, tout ce dispositif est vraiment important parce que même si de nos jours, effectivement, on parle de VIH, on ne parle plus de sida, quand on apprend la maladie et le temps que tout simplement on devienne indétectable avec les traitements, etc., c'est vraiment sa vie qui connaît un séisme. Et cette association était vraiment là pour amortir. Donc pour moi, je me sens bouleversé de cette nouvelle parce que c'était vraiment une famille que je retrouvais, puisque avec les autres adhérents, de faire ses activités, on se fait des amis, on sort de sa solitude, on peut affronter la maladie différemment. Et ce que je regrette le plus, c'est que malheureusement, le VIH existe toujours et que après moi, il n'y aura même pas ce processus. Pour moi, c'est un désastre, sachant que le GAP, c'était... À mon information, la seule association de ce type au niveau national. Et j'ai l'impression que ça va comme pour tout en politique. Enfin, dès qu'il y a quelque chose de bien, on s'empresse de le saper. Et voilà, toujours le nivellement par le bas. Donc, ça m'énerve.
C'est pas les séropos, c'est pas les immigrés. C'est Macron qu'il faut virer. C'est pas les séropos, c'est pas les immigrés. C'est Macron qu'il faut virer.
Maintenant, on peut vivre indétectable à condition d'avoir le traitement, ce qui en France est gratuit, mais ce n'est pas le cas partout ailleurs. Donc c'est vrai qu'en France, potentiellement, on ne meurt plus du sida. Mais moi, ce que je voudrais dire, ça c'est bien, mais c'est d'abord, on passe par une étape où on a l'annonce de la maladie qui est vraiment très difficile. Et je pense que c'est certainement à ce moment-là que tous les malades ont besoin le plus de soutien. Parce que y a une forme de culpabilité déjà, parce que la prévention, on a tous été au courant, mais pour une raison X ou Y, donc il y a ce premier stade qui est compliqué. Il y a tout ce qui est de la sérophobie, etc., la peur de la maladie, la peur de contaminer, parce que tout ça, c'est des idées qu'on a et qui nous viennent en tête lors de la maladie. Donc c'est vrai que moi... J'ai peur de la fin du GAPS, puisque le GAPS était un lieu ressource. Et effectivement, moi, j'ai appris ma maladie à l'hôpital de jour à Saint-André. De suite, on m'a parlé du GAPS. Et c'est vrai que ce lieu, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et c'est un lieu ressource, en fait. Et surtout à ce moment-là où on est le plus faible possible, au moins, il y avait ce soutien-là qui risque de ne plus exister pour, malheureusement, les futurs contaminés. Je touche du bois pour qu'il n'y en ait plus, mais malheureusement, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, donc il y en aura encore. Et c'est vrai que moi, je déplorais qu'il n'ait pas le même service que moi j'ai pu bénéficier, cette association.
Oui, moi je trouve que la prévision noire d'une possibilité de couper les financements et que cet endroit n'existe plus, je trouve ça complètement paradoxal, alors que ça fait plus de 40 ans que cet endroit existe. Ça a vu défiler un nombre de gens, on ne peut pas le citer, mais pour tout, pour les rapports humains, comme il disait notre ami, si quand tu es annoncé, c'est comme si tu sautais dans le précipice, hein, pour certains. Après, il y a des gens comme ils sont ici, qui sont formés, qui connaissent, qui peuvent t'écouter, t'aider et relativiser. Bien que c'est compliqué quand même à relativiser avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est ça c'est le truc, hein. C'est tac, hein. Mais moi, surtout, ce que je veux pas, c'est que le GAFS disparaisse. Parce que c'est, pour moi, c'est un endroit qui est... c'est la survie, là. C'est la survie, il ne faut pas déconner avec ça. Hein ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vive le GAFS, il faut que ça continue.
Bon, moi plutôt, que ce que je voulais dire, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a plus de traitement, s'il y a plus de soins pour des personnes, en fait, qui n'ont pas de papier et... autant qu'étrangère, en fait, c'est pas quelque chose de cool. Moi, je suis étrangère, ben, du coup, je pense qu'on a beaucoup de migrants qui sont dans le pays. Et beaucoup ces gens-là, ils ont beaucoup risqué parce qu'ils n'ont pas de papier pour avoir les professeurs comme nous. Surtout, les femmes, souvent, ils sont victimes de la prostitution. Les hommes aussi, c'est pareil, ils vont sortir, ils vont faire tout pour avoir l'argent, pour avoir une vie normale. Et souvent, ben, tellement ils sont dans un galère en Europe, ben, ils posent pas la question, en fait, avec qui ils couchent. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est soit un hébergement, soit... Et du coup, ben, souvent, ce sont des gens qui sont beaucoup en risque. Et du coup, si on laisse... Si ils suppriment la carte AME pour ces gens-là, ben, ça peut avoir un gros épidémie après. Si on a envie d'avoir un France pareil comme il y a 30 ans, plein de gens malades, plein de tristesse, ben, du coup, il faut passer à l'âme. Et en plus, le GAPS, sans GAPS, en fait, on ne peut pas... Ben, beaucoup entre nous, on a besoin de suivi psychologique, parce que ce n'est pas une maladie comme toutes les autres maladies. C'est une maladie qui travaille avec notre cerveau, notre façon de penser. Ça nous met... C'est même nous qui commençons à discriminer les autres, à avoir peur de mélanger avec eux, de manger, partager notre truc, tout avec eux. Et du coup, parce qu'on sait très bien quand les gens vont savoir comment ils vont vivre avec nous, parce qu'il n'y a pas trop d'informations sur la maladie. Franchement, ils ont envie que ça soit normal comme tous les autres, mais il n'y a presque aucune information pour que les gens nous acceptent aussi dans la société. Du coup, il y a encore beaucoup de travail et je ne pense pas qu'il faut enlever une association de psychologie pour nous, quoi. Du coup, tout ce que je voulais dire.
Et pour moi, ben, voilà, l'AME, c'est comme le sens, c'est dans un sens de restriction, de plus de choses, etc. Et j'ai bien peur pour moi que ce soit une première étape et que si on laisse passer, ben, voilà, ce soit comme nous. Comme déjà maintenant, avant tout était gratuit, maintenant il faut des mutuelles et ce genre de choses. Et encore avec l'inflation, c'est pour ceux qui peuvent se le payer. Et donc il y a déjà un système de santé à deux vitesses comme aux États-Unis. Mais j'ai bien peur que ça continue à s'accélérer et voilà.
On ne sait pas vraiment ce qui se passe parce qu'en États-Unis aussi, on ne sait pas vraiment parce que moi j'ai pas mal vu des jeunes. Parce que bah, je comprends bien l'anglais, du coup bah, sur Facebook il y a beaucoup de trucs et pas mal de jeunes qui sont malades, qui popagent, qui fait... Et du coup, bah, je pense que là-bas aussi, en fait, il y a des médicaments, en fait. Non, parce que sinon, ça, l'épidémie dans le monde, ça n'allait pas arrêter. Mais ça dépend de quel type de médicaments tu en as dans ton pays. Mais en fait, ils ont quand même une façon de régler des choses.
Oui. Et puis, ça dépend du système de santé.
Oui, du système de santé.
En France, on est quand même un super bon système. Donc, effectivement, ben, nous, on a les moyens parce que les médicaments sont remboursés, ce qui n'est pas le cas partout. Et moi, je vois à mon petit niveau, ben, j'aurais à payer le prix des médicaments, je n'aurais pas de quoi les prendre, tout simplement.
En fait, moi, j'aurais envie de dire que j'ai l'impression que la meilleure lutte contre l'épidémie et de prendre soin de tout le monde, ce serait d'être dans une société qui serait moins injuste. Oui. Et en fait, déjà, s'il y avait moins d'exploitation... économique, s'il y avait moins de racisme, s'il y avait moins de violences sexuelles, ben en fait, il y aurait moins de contamination parce que tout le monde déjà serait informé sur ses droits, serait pas dans des situations de pas pouvoir avoir le préservatif. En fait, le moins il y aurait de violences sexuelles qui sont aussi la conséquence des inégalités, ben le moins il y aurait d'épidémies et le plus on pourrait aussi prendre tôt en charge les gens quand ils en ont besoin, les accompagner sans la stigmatisation. Et qu'en fait, une meilleure santé pour tous, c'est aussi moins d'injustice dans la société, quoi.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be...
Moi, ce que je voulais dire, c'est plutôt en tant qu'en... ancien séropositif depuis très très longtemps, et de voir que ben que il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés dans les années 2000 et tout ça, que ça a été vraiment au début caché, maintenant on en parle comme ça. Et puis après cette maladie, le Covid, ben et tout ce qui était séropositif, on en parlait beaucoup moins, de AIDS et tout ça. On avait même jusqu'à dire disparu sur de cette situation, alors qu'il y a de plus en plus de personnes, que ce soit du côté homosexuel, que ce soit du côté ceux qui prennent de la cam, mais c'est pas à ce mot-là, j'aime pas dire ce mot-là. Et aussi, ce que aussi maintenant, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup d'hétéros qui l'ont, et que avant on n'en parlait pas trop, et on s'en aperçoit qu'il y en a énormément, et pas simplement que les personnes étrangères, il y a aussi beaucoup de Français qui l'ont attrapé. Voilà. Donc c'est quand même des choses qui sont, on dirait pas, mais ça commence peut-être. On dit que ça disparaît, puis au fur et à mesure que ça s'évolue. L'avantage du GAPS, pour moi, je voulais parler du GAPS parce que c'est pas très longtemps que je connais, et j'ai trouvé que c'était un endroit. Enfin, on pouvait parler entre nous, qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, qu'on soit qu'on prenne des piqûres, qu'on soit étrangère, eh bien on est tous ensemble et on discute et on n'a pas peur de discuter. On sait très bien que ça va sortir du mur. Parce que des fois, c'est très difficile de parler à l'extérieur. Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'être entouré d'une famille qui m'a beaucoup aidé, des amis qui m'ont beaucoup aidé, mais je suis peut-être une des rares personnes qui a cette chance-là. Parce qu'elle est, beaucoup de personnes n'osent pas en parler. Beaucoup de personnes aussi s'isolent. Et justement, il faut qu'ils sortent de l'isolement, parce qu'aussi on est là pour qu'on puisse s'aider et pour s'écouter. C'est pour ça que le GAPS, c'était quelque chose qui était très important. Voilà.
Que les politiques, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La santé, ça ne doit pas être une variable d'ajustement pour telle ou telle partie. Parce que la santé, ça peut toucher un gamin, ça peut toucher un vieux. Voilà. Donc, que le GAPS doit continuer à exister, comme vient très bien de le dire l'interlocuteur précédent. Ça a une utilité vitale. Donc ils se débrouillent comme ils veulent, que GAPS résiste. Il faut que ça dure. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Allez, merci.
Moi, je dirais que même s'il y a d'autres associations qui s'occupent des gens qui sont séropositifs, tout ça, moi, je dis par exemple AIDS ou autre, hein, bon, c'est très bien, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on puisse accueillir les gens qui ont ces problèmes-là. On peut pas dire qu'on est malade, mais on a des problèmes. Pour moi, c'est une grande différence, parce qu'on sait très bien qu'on peut vivre avec beaucoup de chance, parce que moi, j'ai fait partie des anciens qu'ont connu 1996, qu'ont connu l'évolution des guérissements, des trucs indétectables, la PrEP, exactement. Bon, beaucoup de choses qu'on connaît, mais le problème, c'est que les gens ont toujours peur. À n'importe quel moment, on peut en discuter, les gens ont peur. Alors, c'est pas parce qu'on est en 2024 qu'en 2024, les gens réagissent comme si c'était en 1992 ou en 1982. Voilà. C'est, la seule différence, c'est qu'à cette époque-là, on annonçait ça comme une mort. On partait pour mourir le lendemain. Là, on a la chance de vivre. Et nous, on a besoin de rencontrer des personnes qu'on vive la même chose, qu'on est là pour se combattre et pour qu'on vit une chose actuelle. Donc c'est très important.
Et en plus aussi, la discrimination, ça continue. On sait très bien, il y en a qui c'est, on parle d'indétectable, mais on sait aussi qu'il y a du PrEP, il n'y a pas que des préservatifs, il y a du PrEP, il y a, Il y a aussi, aussi le médicament pour une prise de risque. Et du coup, tout ça, ça ne me parle pas. Parce que si tout le monde savait que quand on a pris des risques, en fait, en 48 heures, on peut prendre un médicament d'une prise de risque et en fait nettoyer le sang qui va relever le VIH parce qu'il n'est pas encore installé, il n'a pas encore trouvé un cellule pour entrer là-dedans. Et du coup, tout ça, ça ne parle pas du tout. PrEP, en fait, pour les gens qui n'aiment pas des préservatifs, peut prendre, acheter du médicament Truvada à la pharmacie et après, il peut prendre ça pour une sortie le soir. Ça fait rien, c'est 24 heures. Du coup, en fait, on parle de rien et nous, on est discriminés, on est mis à côté. Mais sauf que tout ce qu'ils ont envie, c'est qu'on accepte qu'on n'est pas malade et que, oui, on peut vivre avec ça. Franchement, lutte contre la discrimination, lutte contre ça, parce que nous, on est déjà aussi, on est considérés comme un genre de zombie dans cette société. On marche comme des morts vivants dans la société. Et franchement, je voulais bien, en fait, que s'ils ont envie aussi, qu'ils fassent des campagnes aussi plus comme avant, parlons de tout ce qu'on a trouvé comme nouveauté et avec tout ce qu'on peut vivre. Que les gens peuvent nous accepter aussi bien aussi, parce que ça, tout ça, ça fait partie de là-dedans. Tu veux arrêter les gaps, sauf que les gens ne nous acceptent pas, le monde ne nous accepte pas. Nous, on a accepté notre maladie, sauf que le monde ne nous a pas accepté. Du coup, dans quel monde on vit, où on va ? Si on n'a pas de suite psychologique, on est où ? On va où ? Il y a plein de gens qui vont se suicider aussi.
Assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier, et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais, j'échangerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé, responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué, fatigué. Fatigué du mensonge et de la vérité, que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruel, que je m'y suis brûlé. Fatigué, fatigué, fatigué d'habiter.
Voilà, merci aux personnes du GAPS et de l'émission Les Indétectables pour ces mots sur le GAPS, donc le groupe d'aide psychologique et sociale menacée de fermeture suite à la suppression de son financement par l'Agence régionale de santé. On en reparlera à la Clé des Ondes quand il y aura des nouvelles de ce qu'il se passe de leur côté. Voilà, on arrive à la fin de ce plat de résistance. On va finir avec un petit peu de musique. Et Gwendoline.
Union soviétique, modèle idéal, la Corée du Nord, bon système social, ticket de rationnement, dénonce ton voisin, culte du chef, c'est notre champion, gloire au parti, à tous les travailleurs, hymne national, on va les niquer, c'est nous les meilleurs, on va la gagner, achète une merguez pour la caisse de grève, santé mon Bernard, pour tous tes milliards. Le bon politique, c'est celui qui fraude. C'est celui qui fraude. Paradis fiscal, soleil agréable. Laissez nos banquiers, laissez-les travailler. Les États-Unis, la fierté des armes. Arabie Saoudite, le respect des femmes. Centre commercial, c'est vraiment génial. Centrale nucléaire, une énergie viable. Dans les abattoirs, confort de l'animal. En Amazonie, ils aiment les arbres. Arrêtez de critiquer, retournez dormir. Allez travailler, retournez dormir. Vive la nation, vive la légion. Il faut garder notre fric, on emmerde les régions. L'écologie ça sert à rien, tout ça c'est du bidon. Faut plus de gasoil pour notre nation. Envoyer l'armée sans limite ni restriction. On veut tout. consommer, surtout si c'est moins cher. Fermez les associations, foutez-les en prison. C'est une conspiration, tous les pauvres et les chiens. Armée obligatoire, dès l'âge de 16 ans. Discipline et volonté pour notre intégrité.
Gwendoline avec le titre Conspire. Pour terminer ce plat de résistance, dans un instant, ce sera le guide du Bordeaux colonial et aujourd'hui un moment de littérature émancipatrice. Gérard, Martine, Sarah et Bertrand sont déjà dans le studio. Bertrand, salut. Petit mot sur votre programme du jour.
Oui, bien, on retrouvera les chroniques habituelles, la chronique cinéma, la chronique art, la parole au libraire. Quant au livre qui servira de support à notre discussion d'aujourd'hui,